le réflexe habituel de celui qui cherche dans la Bible un éclairage sur la vie affective et sexuelle, c'est d'aller à la chasse aux papillons, plutôt que de s'intéresser avant tout au paysage, à l'esprit, à l'histoire, au climat. Il traque quelques bouts de textes à épingler dans sa collection intitulée « Morale sexuelle ». Or, ces textes sont très rares, sont dispersés, et surtout ils ne répondent pas aux questions que nous nous posons aujourd'hui. Ajoutons aussi que dans la pensée biblique, tous les humains sont supposés hétéro-affectifs. Donc la question d'une homo-affectivité foncière n'est jamais envisagée. Si on considère maintenant non pas les textes législatifs mais les textes narratifs, on trouve peu de récits qui tournent autour de fautes sexuelles. Il y en a deux qui viennent immédiatement à l'esprit. D'abord la double faute de David, qui consiste en un adultère doublé d'un homicide, et aussi la double faute commise à l'égard de Suzanne, cette belle jeune femme, par deux vieillards, qui consiste en une tentative de viol et dans un faux témoignage. Dans tous les textes prophétiques, pas un mot de morale affective et sexuelle. Toute l'attention des prophètes, et Dieu sait s'ils ont le souci d'une véritable éthique, c'est l'attitude envers Dieu d'une part, donc contre l'hypocrisie par exemple, contre la fausse religion, mais aussi de nombreux passages, très nombreux, qui concernent la justice sociale, le rapport avec le prochain, spécialement quand il est pauvre et opprimé, marginalisé. Et les figures emblématiques de ce pauvre sont l'étranger, la veuve et l'orphelin. Deux autres choses sautent aux yeux dans le Nouveau Testament et qui sont toutes deux de l'ordre du silence. Dans certaines de ces lettres, qui sont les premiers écrits du Nouveau Testament dans les années 50, Paul ne se contente pas de donner des orientations générales, mais il se prononce sur des cas très concrets de morale, notamment sexuelle, en fonction des questions qui se posent et qu'on lui pose au sein des communautés. C'est le cas notamment dans la première lettre aux Corinthiens. La ville de Corinthe, une ville portuaire, était réputée pour sa licence morale. La pédérastie grecque ou d'autres formes de rapports homosexuels s'y pratiquaient sans doute. Mais il n'en est pas question du tout dans cette lettre ou dans ces lettres de saint Paul aux Corinthiens, comme si le problème ne se posait pas. Contrairement à d'autres problèmes, par exemple un cas d'inceste, la chasteté dans le mariage, ou d'autres problèmes qui ne relèvent pas de ce qu'on appellerait nous aujourd'hui la morale sexuelle, sont discutés par Paul, par exemple l'achat de viande sacrifiée aux idoles, l'appel à des tribunaux païens ou le comportement à l'égard d'un esclave qui s'est enfui. Donc quand on lui pose ce genre de problème, Paul répond de manière assez précise et circonstanciée, mais aucun cas concret d'homosexualité n'est discuté par Paul, comme si ces cas n'existaient pas, ce qui est peu probable, ou comme, ce qui est plus probable, comme s'il n'éveillait pas une attention particulière. Si maintenant nous considérons les quatre évangiles, un peu plus tardifs, on n'y trouve pas le moindre enseignement relevant de la morale sexuelle considérée pour elle-même. Le seul passage indirectement concerné touche la fidélité conjugale, l'indissolubilité du mariage et la prohibition de l'adultère dans Matthieu au chapitre 19. À ce moment-là, Jésus fonde son enseignement sur l'indissolubilité du mariage, non pas sur un principe de morale sexuelle, sur la chasteté, mais sur la sainteté de l'alliance conjugale selon la volonté du Créateur, la fameuse phrase, hein, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et immédiatement vient ensuite une brève réflexion sur l'abstinence sexuelle. Parce que les apôtres disent à Jésus, alors si c'est comme cela, eh bien mieux vaut ne pas se marier. Donc ils ont l'air de dire que l'abstinence sexuelle vaudrait mieux. Donc l'occasion était belle pour Jésus de l'exalter et d'y encourager. Rien de tel. Jésus évoque un don de Dieu par lequel certains deviennent, comme il le dit, eunuques pour le royaume de Dieu, mais il précise, tous ne comprennent pas ce langage, non pas parce qu'ils seraient plus bêtes que d'autres, mais parce que ce langage ne leur est pas adressé à eux, mais seulement ceux-là à qui c'est donné. Et Jésus conclut en disant, qui peut comprendre, qu'ils comprennent. Donc sur la morale sexuelle, sur les actes homosexuels, nos évangiles sont totalement muets. Donc c'est un silence quand même qui a de quoi nous étonner, surtout les personnes qui seraient un peu fascinées par tout ce qui tourne autour de la sexualité, comme si c'était le domaine par excellence de l'attention morale. Alors qu'on trouve beaucoup d'enseignements de Jésus dans les évangiles et dans le Nouveau Testament concernant d'autres aspects de l'éthique, l'usage des richesses, le pardon, la véracité, l'entraide, etc., etc. Les comportements qui sont vigoureusement dénoncés par Jésus sont d'une part l'hypocrisie religieuse et d'autre part le manque d'amour envers le prochain. Donc tout se passe dans les évangiles comme si la sexualité n'était pas concernée, hormis le cas de l'alliance conjugale. Donc, question qu'on peut se poser, est-ce que Jésus pensait que nos comportements sexuels n'ont pas grand-chose à voir ni avec l'amour de Dieu, ni avec l'amour du prochain? C'est évidemment peu vraisemblable. Sans avoir lu Freud, Jésus savait d'expérience, puisqu'il était charnel et corporel et construit comme nous, à quel point toutes nos relations sont marquées par notre affectivité, elle-même inscrite dans les mouvements de notre chair. Donc, comment répondre à la question qui interroge ce silence du Nouveau Testament, notamment sur la morale sexuelle ? Bien, je vous propose l'hypothèse suivante, en deux volets. Premier volet, l'art d'intégrer notre affectivité et notre sexualité dans l'ensemble de notre vie spirituelle est confié à notre discernement, à notre sagesse, à notre expérience. En effet, les règles sont ici de faibles secours. Il s'agit plutôt de nous situer dans une dynamique partant d'un inachèvement un peu chaotique au départ et visant une harmonie croissante. Le deuxième volet de l'hypothèse, c'est que notre vie affective et sexuelle s'oriente au mieux, non pas à travers une fixation sur ce domaine de notre vie, mais en inscrivant toute notre personne et tout notre devenir dans la tension créatrice du double commandement, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Une vie affective et sexuelle bien orientée n'est pas celle qui est gouvernée par la seule observance de règles sexuelles, mais celle qui est progressivement transfigurée par l'amour de Dieu et par l'amour du prochain.